un ton froid et détaché sur les enregistrements. Afin de garder une trace de leurs échanges, Inès décide d'enregistrer les entretiens qui vont se dérouler de novembre 2020 à avril 2021. Pour cela, elle pose son téléphone à la vue de Le Maire sur son lit sans que cela ne l'incommode. Les propos qui vont suivre sont donc pour la très grande majorité enregistrés et ont été retranscrits ensuite mot à mot. Les scripts ainsi que les bandes audio ont été certifiés conformes par huissier et ont été transmis au service de police de l'OFMIN qui planche depuis 8 mois sur ce dossier. Je cite, peut-être naïvement, dit-elle. Inès attendait des excuses de son père adoptif à l'heure de la fin de sa vie. Mais elles ne sont jamais venues. Au contraire, le ton froid, détaché, il assume ses actes et mouille certains de ses amis à des degrés différents, surtout Mads Neff, qui revendique déjà ses actes dans les livres, et Humbert, mort en 2016. À propos de son ami et avocat Gibault, le maire va se montrer plus évasif. Il va d'abord refuser intellectuellement de l'impliquer dans cette voie, mais ne l'écartera finalement pas lorsque la question lui sera posée ultérieurement. Est-ce parce qu'il le craignait, comme l'a toujours affirmé Inès? Contacté par Libération, Gibault donc a nié par la voix de son avocat. Afin de lancer le sujet des violences sexuelles à partir de janvier 2021, Inès suggère à son père adoptif de lire d'abord La Familia Grande, le livre dans lequel Camille Kouchner dissèque la mécanique de l'inceste commis sur son frère par son beau-père Olivier Duhamel. À 47 ans, Inès se sent encore incapable d'interroger directement l'un de ses agresseurs sur son cas personnel et va donc genrer la plupart des passages de la discussion au masculin. Inès, je cite, tu as lu le livre que je t'ai apporté? Oui, en partie. J'adore picorer avant de lire, alors j'ai picoré certains passages. C'est bien écrit, ce qui n'était pas évident pour un Kouchner, et le thème choisi est intéressant. Donc je pense, à la fin de la semaine, l'avoir lu, et si nous nous rencontrons le week-end, nous pourrons en parler. Ah oui? Oui, c'est un très bon choix de texte à offrir. Non, c'est le thème, moi, qui m'avait. Oui, il est excellent et rare et bien traité, tout est là. C'était le thème du viol, en fait. Mais exactement, or ce n'est pas courant, un livre consacré au viol du fils par son père, rebondit le maire. Non, mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Ben, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, en tout cas le plus souvent qu'on ne le dit. Ça c'est sûr, oui, dans des familles très bien. Dans les familles de haute bourgeoisie, où on ne plaisante pas avec la morale. Mais ça, la morale, toi, ce n'est pas totalement ton rayon. Non. Par exemple, Mads Neff, il était bien avec des enfants? Ah, il n'était même qu'avec des enfants, pratiquement. Et tu trouvais ça bizarre? Bon, on le classait parmi les pédérastes, au sens pédophile, quoi. Grec du terme. Pourquoi pas? Dans un enregistrement suivant, Jean-François Le Maire relativise la pédocriminalité, la comparant à une addiction classique comme le tabagisme. Inès l'interroge. Mais tu penses qu'on peut témoigner à son enfant son affection de cette manière-là? Oui, de même qu'il y a des gens qui fument visiblement un peu trop. Oui, quand ils ont le goût du tabac. C'est pour te prendre un exemple qui marque que j'ai pris le tabac. Oui. Il y a l'alcool, bon, qui mène l'alcoolique par le bout du nez. Bah, c'est exactement la même chose. Quand ils ont 2 ans, les gosses n'y pensent pas. Quand ils en ont 4, en fonction des lectures du père et des gestes du père, ils y viennent progressivement, continue le maire. Oui, bah, c'est-à-dire que quand c'est dans l'enceinte familiale, ce qui est pratique, c'est que du coup, ça ne se voit pas de l'extérieur. Non. Donc ça permet une certaine intimité, disons. Oui. C'est ça, mais après l'enfant, il ne peut plus avoir, il est marqué un peu quand même. Le responsable, c'est le gosse au départ. Mais sans arrière-pensée. C'est ça qui est bon. Puis ensuite, entre 15 et 20 ans, ça pivote. Le responsable devient l'homme mûr qui sait ce qu'il fait. Et c'est d'autant plus critiquable que c'est à lui plutôt de donner des leçons de morale. Dans les quatrième et cinquième enregistrements, le maire est interrogé par Inès sur la connaissance de que sa mère, Lucienne, avait des violences qu'elle a subies. Il explique. Il y a certainement dans la littérature et la vie courante beaucoup plus de cas qu'on ne le pense d'amour paterno-filiaux sous l'œil, non pas indulgent, mais sous l'œil de la mère qui faisait son tricot, et qui n'en coucherait pas moins le soir avec le père. La sexualité atteint des profondeurs que l'on ne soupçonne pas. Le père et le fils cachés derrière le journal, parce que ça, il y avait des mètres carrés là qui vous dissimulent bien, pendant que la mère coud à la fenêtre, attendant qu'ils aient fini leurs ébats pour passer à la cuisine. Oui, mais ça ne marche qu'avec des enfants suffisamment petits, parce qu'après, quand ils sont adolescents, ils n'acceptent plus. Une fois que l'affaire est lancée, poursuis-je le maire. Ah oui, ça continue. Je crois qu'il peut y avoir un certain goût pour de l'enfant. Oui, parce que l'homme mûr est le sachant, alors comme un apprentissage, tu veux dire? Oui, si l'adolescent sait qu'il se soumet à des règles condamnées par la société, mais finalement qui apportent une certaine jouissance, pourquoi pas? Oui, mais alors comment est-ce qu'après il peut arriver à retomber sur ses pieds et à sortir de cette relation? Mal, généralement mal. C'est ça, oui. Ben, ça laisse des traces. Oui. On change de sujet. Dans le sixième audio, Inès aborde ce qu'elle a toujours nommé les jeux sensuels, à savoir les sévices commis par des objets métalliques de 77 à 80 dans l'appartement rue de Varenne. À l'époque, elle y était emmenée par celle qu'elle appelle Zazel, sa nurse. Les jeux sexuels, ça ne peut être que pour les petits en dessous de 10 ans? Oh oui, c'est ça, mais par exemple, s'il y a une nounou dans la maison, la nounou, elle voit rien, elle le voit bien sûr, et elle ne dit rien? Cela dépend des nounous. Elle avait des yeux quand même, du coup, ce n'est pas dérangeant pour elle, elle s'en fout. Elle admettait que c'était la société. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où l'enfant, il est assez grand pour parler, il peut raconter aussi. Alors du coup, c'est embêtant. Oui. Mais comment fait-on pour l'empêcher de raconter? On change de sujet. Ah oui? Et s'il insiste? L'enfant quand même a vis-à-vis de son père la notion de respect, et si le père ne dit pas « c'est pas vrai », mais nous parlerons davantage de la pluie parce que ce jour-là il a plu des cordes et que c'est quand même intéressant, et tous les enfants vont dire, mais oui papa, bien sûr qu'on parle de la grande pluie d'avant-hier. Mais est-ce que tu dirais que c'est une forme d'amour entre le père et le fils? Ah, si elle va jusqu'aux actes répétés, il n'y a aucun problème, c'est une preuve d'amour. Oui, mais encore faut-il. Mais après, si plus tard le père et le fils ne s'entendent plus, alors ça veut dire. Eh bien, ils divorcent comme d'autres, seulement ils n'ont pas leur tribunal et leurs avocats et le procureur. Mais il a quand même plus ou moins violé son fils, c'est gênant. Cette bonne guerre. Ah oui, tu penses? Ah oui. Mais ça ne se fait pas trop quand même. C'est-à-dire que ça n'apparaît pas trop, mais ça se fait couramment. Si tu lis la littérature grecque de l'Antiquité, ce n'est qu'un éloge de l'enfant. Dans le huitième enregistrement, le maire justifie à nouveau la pédocriminalité, en l'adossant à une pseudo-permissivité inspirée des civilisations grecques et romaines. Je te faisais parler des liens avec les enfants. Ah oui. C'était plutôt ça qui m'intriguait. Je me disais qu'avec deux genres de personnes comme Gibault et comme Maznev, il y avait quand même beaucoup de choses qui se passaient avec les enfants et que je trouvais ça un peu. Janssen? Il parle ici de l'ex-directeur de la banque Worms, donc Claude Janssen, dont on a déjà parlé. Il fallait qu'il soit le premier. Il a donc avalé toutes les littératures grecques où Dieu sait que l'enfant est mis en valeur, comme il a avalé le reste. Non, mais ce n'est pas ça, les liens avec les enfants, je voulais dire les gens qui touchent aux enfants. Oui, mais ça, l'un menait à l'autre. L'un mène à l'autre, tu penses? Si tu lis la littérature grecque de l'Antiquité, ce n'est qu'une éloge de l'enfant, ce n'est qu'après qu'on verra apparaître l'éloge de l'homme mûr. Ah, tu veux dire qu'on incitait à être avec des enfants. Le milieu était favorable à l'enfant, et l'enfant était par zèle au départ, peut-être pas par goût, mais le résultat est le même, l'objet des attentions de ses aînés. Oui, mais des attentions sexuelles. Le neuvième audio aborde les lettres découvertes subrepticement par Inès en vidant l'appartement. Pourquoi tu as gardé toutes ces lettres qui parlent de ça? Tu sais où elles sont? Oui, elles sont chez moi. Il rit et enchaîne. Mais il y en a quoi? Il y en a 5? Il y en a 6? Non, non, non. Alors il y a les dossiers que t'as faits, qui sont hallucinants, où tu mets des noms des personnes, et puis tu as toutes les lettres que tu as gardées, toutes les lettres. Et après, il y a tout ce que t'as planqué dans les endroits étranges, comme par exemple sous le canapé de l'arrière-bibliothèque, les lettres de Maznev. Ah, cela m'ennuie davantage. Vanessa Springora, qui avait donc 14 ans, quand Maznev couchait avec elle, ce genre de choses, tu vois. C'est embêtant, ça. Bon, c'est un peu la vie d'adolescent. Ah oui, enfin pas tous les adolescents, heureusement, parce qu'il y en aurait beaucoup qui se seraient foutus en l'air ou seraient partis chez les psys à vie. Oh là, je crois que tu exagères. Tu caches les lettres sous le canapé, c'est quand même particulier. Ce ne sont pas des lettres à laisser traîner, mais d'un autre côté, cela ne compromet que celui qui les a écrites. Dans le dixième audio, Humbert est évoqué nommément. Le maire va faire de lourdes confidences à son sujet, en laissant entendre à sa fille adoptive qu'il recourait aussi à des réseaux de prostitution. Où est-ce qu'il trouvait les enfants? Ça, c'était. Il était assis sur la réserve bulgare. Ah oui, mais qui arrivait à les faire venir jusqu'à Paris? Oh, sans la moindre difficulté. Humbert a monté de véritables réseaux de prostitution. Mais de pédos? Pédoprostitution? Non, pas forcément, mais si cela pouvait l'aider, ça n'était pas un obstacle. Pour moi, tous ces mots ont été d'une profonde violence. Au cours du 12e enregistrement, enfin, Inès interroge son père pour savoir comment il réagirait si elle décidait un jour de révéler la vérité. Est-ce que tu penses qu'il faut que je parle? Parce que tu la connais, moi, ma morale personnelle. Elle est comme elle est, mais tu la connais. Elle est. Oui, elle est très respectable. Donc tu me conseillerais plutôt de parler alors? Oui, dans un contexte, non, dans un fait divers un peu canaille, mais dans un contexte plus général, traitant de l'ensemble de l'article. Oui. Mais est-ce que ces gens ont fait du mal? Ben oui, aux enfants. En leur ouvrant la voie? Bah, en bousillant leur vie, en leur faisant des choses que les adultes ne doivent pas faire aux enfants, tu ne crois pas? Oui, je t'écoute. On peut penser ça. Jean-François Lemaire meurt le 3 septembre 2021. Lucienne Chatin est morte quelques mois plus tôt, en mai 2021. Le jour des obsèques de sa mère, le prêtre de l'EHPAD, mobilisé aussi par Inès dans l'espoir d'obtenir des excuses de son père adoptif, lui dit: Madame, n'espérez plus. Pour moi, ces mots ont été d'une profonde violence, retrace-t-elle. Ils représentent la fin d'une espérance, un échec aussi, parce que j'ai cru bêtement que je pourrais lui faire réaliser à quel point tout ça n'était que de la souffrance. Fin de citation. 4 mois plus tard, personne n'est invité à la cérémonie. Seul Inès et Adrien et son mari et donc Geoffroy Adair se rendent au crématorium. Ils feront paraître une annonce minimaliste dans le carnet funéraire du Figaro, sans aucune mention des multiples décorations glanées par le maire. Inès assure qu'en la découvrant, Gibault l'a appelée furibarde pour s'offusquer de ce crime de lèse-majesté. Le même Gibault chez qui elle s'est rendue à 2 reprises en 2022 pour lui poser également un bon nombre de questions. Très craintive, elle ne l'accusera pas directement des agissements qu'elle dénonce aujourd'hui à la justice le concernant. Gibault, lui, niera être au courant de quoi que ce soit, que de quoi que ce soit. En fouillant les archives de la rue du Bac, Inès avait aussi mis la main sur un curieux téléx présentant laconiquement ses condoléances à Lucienne Chatin, comme si son mari venait de décéder brutalement. Je cite: Très émus par le décès prématuré du docteur Jean-François Lemaire, les membres de l'Association des médecins conseils des sociétés d'assurance Côte d'Azur Corse vous adressent leurs bien vives condoléances. Fin de citation. À quoi a-t-il servi exactement? Inès l'ignore. Mais ce qui semble certain, c'est que son père adoptif s'est fait passer pour mort auprès de certaines personnes. Interrogé par sa fille à l'EHPAD, Lemaire a répondu, énigmatique et hors bande audio, je cite: Ça peut être utile de disparaître. Fin de citation. Le long parcours d'Inès sur le chemin de la parole. Depuis février 2022, la quinquagénaire travaille main dans la main avec ses avocats, Grimaud et Constantino, pour appréhender son vertigineux dossier. Elle espère que son témoignage permettra d'ériger de nouveaux garde-fous juridiques pour protéger les enfants. C'est un rituel qui s'est imposé au fil du temps. Dans le grand bureau éclairé, avec son avocate, Inès s'installe dans le coin droit du canapé. Son conseil lui fait face de l'autre côté de la petite table en verre où mille fois elles ont étalé les archives qui charpentent ce dossier aux multiples fantômes. Une affaire vertigineuse dans laquelle la jeune quinquagénaire accuse de grandes figures intellectuelles des années 70-80 de lui avoir fait subir des sévices sexuels et des viols durant toute son enfance. Je cite: Cette pièce est pour notre cliente un lieu de sécurité. Tout s'est fait ici ou presque depuis 2 ans. Des centaines d'heures d'entretien, autant de lectures, d'analyses de documents et ouvrages exhumés par Inès qui, confrontés à son récit, sont entrés en cohérence les uns avec les autres. Nous avons également fait des recherches auprès de divers organismes et institutions. Cela a été un travail minutieux et rigoureux au cœur duquel l'émotion a pu aussi trouver sa place, une confiance est née, ce qui était impensable, ce qui est indispensable pour parcourir un tel chemin. Fin de citation. Si Inès a poussé la porte de ce cabinet, posé non loin de la place de la République, c'est parce qu'elle recherchait des avocats expérimentés et spécialisés dans la protection de l'enfance. Marie Grimaud et Rodolphe Constantino sont associés, son associé et mari dans la vie. Ils consacrent leur carrière depuis 2011 pour la première et 93 pour le second. Leur salle d'attente campe d'ailleurs le décor des Playmobil à portée d'enfant à la petite tortue d'eau qui enchaîne les apnées. Je cite: Avec Rodolphe, on se dit parfois que si la relation a pu s'établir ainsi avec Inès, comme avec d'autres de nos clients adultes ou enfants, C'est parce que nous finissons par représenter symboliquement des parents judiciaires, poursuit Maître Grimaud. Fin de citation. Comme deux repères orthogonaux pour cette femme qui décrit encore les horreurs qu'elle a vécues avec des mots d'enfant. Pour appréhender le dossier et s'équilibrer mutuellement, ils ont rodé une méthode inchangée depuis la rencontre initiale de février 2022. Marie Grimaud est celle qui tient la relation, parfois éprouvante, avec Inès. Noctambule, les deux femmes échangent à des heures improbables lorsqu'un détail revient en mémoire. Leur règle, je cite, on écrit tout ce qui nous vient. L'autre répond quand elle peut, mais au moins, c'est posé quelque part. Mais même à 2 h 30 du matin, les réponses fusent. En 2 ans, il n'y a pas un jour où je n'ai pas échangé avec notre cliente. Ce dossier est une affaire à tiroir, une histoire dans l'histoire, livre Marie Grimaud. Fin de citation. Rodolphe Constantino, lui, ne s'est jamais immergé dans le dédale des documents et des entretiens avec Inès pour garantir une forme d'approche clinique et contextualisée du dossier au fur et à mesure des avancées. Je cite, j'ai tenu à rester le premier juge de ce dossier. Dans les documents, il y a tellement de pistes à explorer, de recoupements à effectuer qu'il était impossible de s'y perdre. Qu'il était possible de s'y perdre. Mon rôle a consisté à savoir dire stop à certains moments pour rendre intelligibles, précis et caractérisables les éléments en notre possession, murmure-t-il avec un certain stoïcisme. À ses yeux, l'histoire d'Inès n'aurait pu être audible sans la libération de la parole qui a découlé du mouvement MeToo et qui a eu pour effet une désacralisation d'une certaine élite politique, littéraire, artistique et peut-être même judiciaire. Sans cette fracturation permise par toutes celles qui ont ouvert la voie, dont les autrices Christine Angot, Camille Kouchner, Vanessa Springora, Hélène Devinck sur l'affaire PPDA, et plus récemment Judith Godrèche, qui dénonce l'emprise de cinéastes adulés sur des actrices adolescentes, notamment Benoît Jacquot, Jacques Doyon, la réception de la parole d'Inès aurait certainement recueilli une forte réprobation. Je cite, il y a peu de temps encore, ce type de violence paraissait impensable dans les milieux dits très favorisés. Les résistances sont encore puissantes et nous n'en sommes qu'à entrevoir la partie émergée de l'iceberg, observe Rodolphe Constantino. Fin de citation. Une masse d'archives. Afin de bâtir pas à pas la procédure et structurer la volumineuse quantité de pièces apportées aux enquêteurs, Inès et ses avocats ont opéré un classement des documents en fonction de leur teneur, les ont ordonnés chronologiquement avant de les faire numériser. Un labeur qui a nécessité un temps et une énergie considérables, mais qui a nettement accru leur connaissance des arcanes du dossier. Un huissier est venu ensuite certifier conforme la masse d'archives ainsi que les aveux enregistrés de son père adoptif, le maire, depuis l'EHPAD, si bien que l'intégralité des pièces a été remise à l'OFMINE en mai. Les policiers enquêtent dans le cadre d'une enquête préliminaire, donc ouverte en octobre 2023. Lors de ces 2 années écoulées, Inès a mûri sa décision de prendre la parole publiquement. Si le cheminement s'est fait mois après mois, notamment via la lecture de La Familia Grande de Camille Kouchner, un article paru dans le journal Le Monde a été un tournant décisif. Le 5 novembre 2022, le magazine consacrait un portrait à François Gibault, organisateur à plus de 90 ans de dîners encore très sélects sur le modèle des mondanités qui se déroulaient rue du Bac. Dans l'article, l'écrivain et journaliste Nicolas d'Étienne d'Orves, lié d'amitié avec François Gibault, déclare, je cite, c'est une sorte de parrain, une figure paternelle sans ambiguïté, attentionné et attentif. Fin de citation. Des propos insupportables. Pour Inès, qui s'est alors sentie l'obligation de révéler les souvenirs qu'elle a du personnage, qui participait selon elle aux sévices qu'elle a subis avec des objets métalliques rue de Varennes à partir de 1977. J'ai un rêve, ne jamais revoir celle que j'étais dans le regard d'une petite fille. De son choix d'apparaître à visage découvert, Inès dit aussi, je cite, révéler une telle histoire revient à dire bas les masques. Ce n'est pas un plaisir d'étaler ce passé publiquement. De devoir révéler cette part de sa vie. C'est même si violent. Je sais à quel point ça abîme ou expose tant mon entourage que les familles de ceux que je mets en cause, jusqu'à ceux qui ont croisé la route de le maire sans savoir qui il était. Fin de citation. Elle espère aussi que son récit ne sera pas vain, qu'il inspirera potentiellement de nouveaux garde-fous juridiques, mais sans volonté d'entrer dans l'arène publique. Je cite. J'ai bien conscience que, parmi ceux qui auront porté un intérêt à mon histoire, il se trouvera des voies pour réinterroger les délais de prescription, les processus d'accession à la parentalité via les organismes d'adoption ou encore la GPA. Je n'aspire pas à être la figure d'une cause, mais j'ai un rêve, ne jamais revoir celle que j'étais dans le regard d'une petite fille. Fin de citation. Depuis quelques mois, Inès Chatin parcourt aussi les forums d'enfants adoptés ou ceux des foyers fréquentés durant sa jeunesse par sa mère biologique afin de trouver d'éventuelles histoires similaires à la sienne. Pour cela, elle a créé un compte Facebook à son nom originel, Bérénice Duhamel. Elle pense aussi chaque matin à Virginie Varluzel, avec qui elle a conversé des heures en ligne. C'est l'enquêtrice privée qui avait mandaté Inès pour l'aider à remettre la main sur son dossier d'adoption, qui lui avait signalé les recherches similaires de cette femme, victime aussi de violences sexuelles, et adoptée en 72 par un relais perpignanais de la famille adoptive française. Mais Virginie Warluzel, qui se battait également pour recomposer son passé, est décédée des suites d'un malaise en mai 2022. Inès lui avait promis de continuer, je cite: Aujourd'hui, c'est moi qui arpente le chemin de la parole. J'espère juste que beaucoup d'autres l'emprunteront à leur tour. Fin de citation. Inès, devenue aujourd'hui auteur, ses romans, nouvelles et poésies sont ses moyens d'expression et de partage. Voici quelques poèmes d'Inès Chatin. Les mots sont les sanglots qui jaillissent hors de moi. Ils gouttent sur ma feuille et j'y étale ma peine du bout de ma plume. Je voulais te haïr, mais il paraît que la haine est une forme d'amour, alors je ne te laisse que l'indifférence. Choisir un chemin, le plus juste, et ne plus en démordre. Se le promettre et s'y tenir toujours pour ne plus jamais offrir de victoire à la peur. Un éclat de faiblesse a traversé ton corps. Ne tremble pas. C'est par cette fêlure qu'entrera la lumière. Protéger l'enfant de toutes ses forces d'adulte à chaque instant. Le promettre, puis ériger cette promesse en raison d'être, parce que son innocence est notre humanité tout entière. Fascinante capacité du cerveau à faire le vide quelques instants lorsqu'il est en surchauffe. Pourtant, dans ce néant soudain, un flot incontrôlé de mots jaillit, et d'avoir été rares, ils se font pressants, exigeants même, et il faut les conserver sur le papier pour libérer un peu d'espace vital. Voilà, on arrive à la fin de cet article. Il faut signaler donc qu'il y a une actualisation fin 2024, puisqu'il y a un article paru dans BFM où l'avocate Marie Grimaud dit que depuis les révélations d'Inès Chatin, d'autres victimes l'ont contactée. Et donc ils sont en train de recroiser les choses, d'augmenter les dossiers, de voir un petit peu comment on peut travailler là-dessus. Et donc je vous ai mis à la fois l'article où elle dit ça, il y a un podcast également d'une émission où elle va parler de ces choses-là. Et puis pour finir, je vous ai également mis un article du magazine L'Envers des Affaires de Carl Zéro qui traite du sujet. Alors voilà, c'est traité d'une manière un petit peu différente. Il y a également des portraits. Il y a également un portrait de Balthus qu'on n'a pas traité, mais sinon pour le reste, et de Michel Tournier. Voilà, et puis je vous laisse découvrir ça. Allez, honneur, force et courage, on les aura.